Stanislas Vazak au micro, bonsoir. Plus de 2300 migrants ont déjà quitté la jungle de Calais, mais il en reste encore plus de 4000 et beaucoup refusent de partir. Le reportage de Thibault Lefèvre dans un instant. Les policiers restent mobilisés ce soir malgré le début de la concertation promise par le gouvernement. À Marseille, la réunion entre les autorités et les syndicats de police n'a pas donné grand-chose. Le reportage à suivre d'Olivier Martoc. La grève continue à ITL malgré la suspension de l'émission de Jean-Marc Morandini. Quels sont les projets de Vincent Bolloré pour sa chaîne d'infos en continu? En a-t-il seulement? Nous en parlerons avec notre invité, le journaliste Raphaël Garrigos, co-auteur du livre « L'Empire, comment Vincent Bolloré a mangé Canal+ ». Le démantèlement de la jungle de Calais se déroule dans le calme et la maîtrise. Voilà comment Bernard Cazeneuve a qualifié tout à l'heure la première journée de l'opération visant à supprimer ce bidonville d'au moins 6500 personnes. Selon les chiffres du ministre de l'Intérieur, 2318 migrants ont d'ores et déjà été mis à l'abri. Parmi eux, 1918 adultes sont partis en bus pour rejoindre des centres d'accueil et d'orientation un peu partout en France. Reste 400 mineurs transférés dans un centre d'accueil provisoire où leur situation va être examinée. Au-delà de ces chiffres officiels, il y a la réalité du terrain. Et de fait, beaucoup de migrants entendent rester à Calais dans l'espoir de passer en Angleterre. Thibault Lefèvre, vous avez rencontré quelques-uns de ces réfractaires.
Des récalcitrants, en effet, il y en a. Des hésitants, il y en a beaucoup plus. Les bénévoles de l'association Salam parcourent la jungle pour essayer de les informer et de les orienter.
Demain, ils vont détruire la rangée où vous vous trouvez autour du centre d'accueil provisoire. Et votre maison, elle est là et elle va être détruite.
Face aux bénévoles, Samir et Michael, ces deux Érythréens, ont tout juste 18 ans. Ils viennent de se laisser convaincre de quitter la jungle, mais n'ont pas pour autant abandonné leur rêve d'Angleterre.
La jungle, c'est terminé. Je suis d'accord pour prendre le bus. Je vais y aller, mais je reviendrai à Calais. Pas dans la jungle, mais dans un nouvel endroit.
Tout va très vite, peut-être trop vite pour les centaines de migrants qui n'ont pas encore fait leur choix. C'est la vie de Lison, elle est bénévole pour l'association Salam.
Je pense qu'ils sont surtout effrayés, ils ne savent pas à quoi s'attendre et je trouve ça normal après leur parcours de ne pas savoir où ils vont se rendre. Là, ils savent qu'ils sont au bord de la Manche et qu'ils peuvent traverser pour l'Angleterre et se retrouver au milieu de la France où ils ne savent pas exactement sans repère. Je pense qu'il y a de quoi cogiter quelque peu.
Le reportage à Calais de Thibault Lefèvre avec Jean-Pierre Pernel pour les moyens techniques. À gauche comme à droite, il y a ce soir un large consensus pour approuver le principe du démantèlement de la jungle de Calais. Sauf que du côté de l'opposition, on réclame l'expulsion des déboutés du droit d'asile. Ainsi, Éric Ciotti, député LR des Alpes-Maritimes, demande-t-il une sélection entre les vrais demandeurs d'asile et les migrants économiques. Par ailleurs, la ministre du Logement, Emmanuelle Cosse, dénonce les violences commises contre des centres d'accueil, des comportement absolument inadmissible selon elle. La nuit dernière, dans le Puy-de-Dôme, un début d'incendie volontaire a légèrement endommagé le centre de Loubéra, un village de 1200 habitants qui doit accueillir une trentaine de migrants. C'est l'autre dossier chaud du moment pour Bernard Cazeneuve. La colère des policiers connaîtra demain un nouveau temps fort avec des rassemblements prévus devant les tribunaux. Les syndicats essayent de reprendre la main sur la base en fustigeant le laxisme supposé de la justice avec les agresseurs des membres des forces de l'ordre. En attendant, la concertation promise par le ministre de l'Intérieur a débuté aujourd'hui sans grand résultat, comme a pu le constater à Marseille Olivier Martoc.
Pour le préfet de police des Bouches-du-Rhône, Laurent Nunez, cette réunion a été constructive.
Les manifestants ne se revendiquent pas forcément des organisations syndicales, mais la discussion que nous avons eue avec leurs organisations syndicales représentatives me semble aussi de nature à avoir abordé les problèmes que posent. Ça a été un échange extrêmement constructif dont personnellement je suis très satisfait.
Son de cloche légèrement différent de Jean-Louis Martini du syndicat Synergie, officier CFE-CGC.
C'est systématiquement, si vous voulez, les mêmes problèmes qui sont remis sur la table. Alors on nous comprend, on fait, on va faire, etc. Et finalement, il n'y a rien qui avance, quoi. Je suis un peu inquiet. Vous savez, une manifestation, elle doit être encadrée. Bon, c'est pas le cas, mais bon, ce sont quand même des policiers, ce sont pas des voyous, donc ils savent ce qu'ils font et on les connaît tous, hein. Ce sont des braves gens, hein. Il n'y a pas d'hommes politiques derrière ou de partis politiques, ce sont des gens, ils savent très bien ce qu'ils font. Bon, j'espère que ça va pas perdurer longtemps, mais pour l'instant, c'est le cas. Voilà, ils vont rester sur le terrain.
Une table ronde pour rien, donc, à Marseille, la fronde va continuer. Avec une spécificité locale ici, le tour du centre-ville, toute sirène hurlante, vers minuit, les policiers sont sûrs d'être entendus au moins par la population.
Olivier Martoc, cela fait plus d'une semaine qu'ITL est paralysé par la grève et aucune sortie de crise ne semble se dessiner. Le mouvement a été reconduit ce matin à une écrasante majorité des votants. Les journalistes de la chaîne d'info en continu veulent des garanties sur leur avenir. Le patron du groupe Canal, Vincent Bolloré, fait la sourde oreille. Il s'est contenté aujourd'hui de suspendre l'émission du très controversé Jean-Marc Morandini. Les explications de Catherine Pétillon.
C'est par un communiqué de presse que la direction l'a annoncé. Le Morandini Live est suspendu pour, je cite, des raisons opérationnelles. Seul programme diffusé en direct depuis 8 jours qu'une grève massive touche la chaîne. Il était réalisé jusque-là en faisant appel à des techniciens non grévistes ailleurs dans le groupe. L'émission est seulement suspendue et répondra dès la fin de la grève, explique la direction dans ce même communiqué. Autrement dit, elle annonce aux grévistes qui réclament le départ de Jean-Marc Morandini qu'il sera remis à l'antenne dès la reprise du travail, voilà qui n'est pas exactement de nature à débloquer la situation. Autre confirmation, la transformation d'ITL en CNews, initialement prévue aujourd'hui, est reportée sine die. Les grévistes, eux, ont réagi d'un tweet. Ils rappellent aussi que leurs revendications restent les mêmes et dépassent largement le cas de Jean-Marc Morandini. Ils réclament la signature immédiate d'une charte éthique ainsi qu'un plan stratégique et éditorial. La rédaction, qui ce matin avait revoté la grève à 85%, n'a toujours pas obtenu de rendez-vous avec la direction. Quant à l'éventuelle mise en place d'une médiation pour sortir du conflit, le gouvernement ne s'est toujours pas prononcé. En attendant, la rédaction d'ITL prépare des pancartes. Un rassemblement de soutien est prévu demain à 13h devant la rédaction.
Et ce soir, le gouvernement propose aux grévistes une rencontre avec les services du ministère du Travail. En revanche, pas question à ce stade de nommer un médiateur pour sortir du conflit. Nous sommes en ligne avec le journaliste Raphaël Garrigos, co-auteur avec Isabelle Roberts du livre « L'Empire, comment Vincent Bolloré a mangé Canal+ ». Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Raphaël Garrigos, est-ce que vous êtes surpris de cette grève massive à ITL ou bien cela devait-il arriver selon vous ?
Eh bien disons que c'est la première fois que dans sa conquête de Canal+, Vincent Bolloré se retrouve confronté à un corps social finalement parce qu'il a déjà pratiqué une sacrée purge dans Canal+, mais c'est la première fois qu'il se retrouve face à une rédaction. Et Vincent Bolloré, comme l'a dit un témoin quand on a fait son portrait, il trouve déjà que l'armée c'est un petit peu indiscipliné. Alors des journalistes, c'est encore un peu plus compliqué pour lui.
Ça ne lui est jamais arrivé d'être confronté à une rédaction hostile à ses positions ?
Non, c'est la première fois. Il a fondé le gratuit Direct Matin, qui n'est pas spécialement connu pour être particulièrement indocile. Et là, il se retrouve face à une rédaction qui n'a aucun projet. Ça fait plus d'un an et demi que Vincent Bolloré a pris les rênes de Canal+. Un an et demi qu'il n'y a aucun autre projet, sinon de changer la chaîne pour l'appeler CNews, qui est déjà en soi un petit traumatisme pour un journaliste, de voir le nom de son média changer. Et la perspective de voir arriver Jean-Marc Morandini ou les frères Bogdanov pour parler science, entre guillemets, bien sûr.
Mais est-ce que ça veut dire que Vincent Bolloré, quelque part, ne croit pas au principe de l'info en continu ?
Je pense qu'il ne croit pas au principe de l'information tout court. C'est-à-dire que Vincent Bolloré, il prend un journaliste d'e-télévision comme un animateur de Canal+ ou de C8, une autre de ses chaînes. C'est-à-dire qu'il considère que ces gens-là sont là pour faire la promotion des produits maison. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'un journaliste d'ITL aille faire la promotion des disques Universal qui appartient à Vivendi et donc à Vincent Bolloré et qu'il aille promouvoir telle émission de Canal+. Ça marche pas comme ça, le journalisme. Il arrive à le faire avec Direct Matin qui promeut ardemment les produits maison, les voitures, ces Autolib et d'autres produits de Canal+, par exemple. Ça marche pas comme ça avec une rédaction.
Et c'est pour ça qu'il fait confiance à Jean-Marc Morandini, qui, qu'on le veuille ou non, a une image déplorable en termes de rigueur éditoriale ?
Ah, il y a encore une autre dimension avec Jean-Marc Morandini et Vincent Bolloré, c'est celle de la vengeance. Jean-Marc Morandini, ça a été la tête de pont de Vincent Bolloré du temps où il détenait Direct 8. C'était lui qui animait une émission qui s'appelait Morandini. Jean-Marc Morandini a toujours eu le goût pour intituler ses émissions de manière originale, puisque celle-ci s'appelle Morandini Live. Et il y a un peu cette volonté aujourd'hui de mettre au pas la rédaction d'ITL. Vous n'êtes pas content, je vais vous mettre... Voilà celui qui est à la fois mon protégé, qui a été la tête de pont à Direct 8, ma tête de pont à Direct 8, et en même temps quelqu'un dont je suis sûr que vous n'allez pas l'apprécier.
Donc là, on est dans la vengeance, dans la provocation pure et simple, selon vous.
Oui, c'est vraiment une dimension qui apparaît et que nous on décrypte sur lesjours.fr depuis que qu'on fréquente ce Vincent Bolloré. Il y a une dimension aussi de vengeance. Il y a le businessman, le raideur financier qui est plutôt habile. Il y a aussi celui qui aime bien se venger. Nous on le compare souvent à JR, le JR de Dallas qui disait on ne s'énerve pas, on se venge. Mais là, il va peut-être falloir un petit peu s'énerver parce que quelque chose qui est totalement bloqué aujourd'hui.
Mais tout de même, Vincent Bolloré, c'est d'abord un homme d'affaires. Il a besoin de faire de l'argent avec le groupe Canal. Et de fait, ces réformes n'ont abouti à rien. Et donc, quelque part, il a peut-être besoin aussi d'avoir une information digne de ce nom sur iTélé ou sur CNews.
Oui, mais ça faudrait qu'il en prenne conscience que l'information, c'est autre chose que la promotion croisée des intérêts de Vincent Bolloré. Ce qui est intéressant avec Vincent Bolloré, c'est que finalement, avec Canal+, au-delà même du cas iTélé, il se retrouve pour la première fois à devoir confronter, si vous voulez, à des abonnés, à des téléspectateurs. Aujourd'hui, il vend des autolibs à des mairies, il fait des affaires portuaires. C'est la première fois qu'il se retrouve confronté avec des particuliers et il ne sait pas faire. Et l'information, il a déjà prouvé dans le passé avec Direct Matin, il a toujours eu des problèmes avec ça, oui.
Il y a une part d'incompétence, selon vous, chez Vincent Bolloré en matière d'information ?
Oui, je pense que oui, c'est quelque chose c'est une logique qui ne l'intéresse pas plus que ça, du moment qu'elle ne sert pas ses intérêts. Et la compétence, il a coutume de dire qu'il préfère des gens fidèles plus que compétents. Donc voilà, et là, il en fait la preuve. Il a des gens vraiment très, très fidèles autour de lui.
Raphaël Garrigou, est-ce qu'il y a aussi chez Vincent Bolloré une volonté de reprise en main politique avant l'élection présidentielle?
Écoutez, nous, depuis qu'on enquête sur lesjours.fr sur Vincent Bolloré, on rencontre assez peu de pression dans ce sens-là. Et à iTélé, elles ont été vraiment très, très rares. Et encore une fois, ce que Vincent Bolloré veut, c'est qu'on serve les intérêts de son groupe. Il y a eu une petite friction à un moment parce que les journalistes, au moment de l'élection présidentielle au Gabon, ont dit bah faut qu'on parte au Gabon. Et puis le directeur d'iTélé, Serge Nedjar, a dit oh, bah peut-être pas, regardez le Venezuela, c'est intéressant. Puis finalement, les journalistes ont réussi à partir au Gabon pour faire un reportage. Et pourquoi est-ce que ça dérangeait un petit peu Serge Nedjar? C'est parce que Vincent Bolloré a fait du business au Gabon et n'a pas envie qu'on vienne le contrecarrer. C'est plus des choses comme ça qui vont déranger Vincent Bolloré plutôt qu'une vraie reprise en main qui pourrait être de si vous voulez, de servir celui à qui il a prêté son yacht en 2007.
Raphaël Garrigos, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Je rappelle le titre donc de votre dernier ouvrage écrit avec Isabelle Roberts, L'Empire, comment Vincent Bolloré a mangé Canal+, un livre paru le mois dernier aux éditions du Seuil. On va terminer ce journal avec le CETA, cet accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne qui doit être signé jeudi. Ottawa et Bruxelles affichent leur optimisme ce soir. Les deux capitales espèrent encore trouver un compromis dans les 48 heures. Et pourtant, la Belgique continue à faire de la résistance, plus exactement le gouvernement wallon qui ne veut pas entendre parler de ce traité. Résultat, le Premier ministre belge Charles Michel a écarté toute signature de son pays et l'affaire fait polémique en Belgique. Le reportage à Bruxelles de Laxmilota.
Nous ne sommes pas en état de signer le CETA, a déclaré le Premier ministre, comme celui qui annonce une maladie, une faiblesse qui aurait frappé son pays. Le dirigeant de la région flamande, Gert Bourgeois, va plus loin. Pour lui, la Belgique est la risée du monde entier. Mais pour le président du Parlement de la Wallonie, c'est au contraire une fierté. Sa région montre l'exemple à l'Europe. André Antoine.
Quand c'est une action démocrate, il n'y a jamais de risée. Quand la démarche est transparente, il ne peut pas y avoir de risée. Nous ne voulons pas éblouir l'Europe, nous voulons simplement l'éclairer et leur dire quels sont les dangers que recèlent de pareils traités et voir comment nous pouvons tous ensemble les améliorer. Ça, c'est donner de l'ambition à l'Europe. C'est une Europe qui s'interpose devant les multinationales. C'est une Europe qui invente un nouveau droit, un droit sur lequel chacun, Canadien ou Européen, peut se reposer à l'avenir.
La complexité du système fédéral belge permet à la Wallonie de bloquer le processus de signature. La Flandre, plus prospère, accepte le traité, tandis que la Wallonie refuse pour l'instant. Pour le dirigeant de la Flandre, Gert Bourgeois, la fin du CETA serait une catastrophe pour l'économie. Les échanges commerciaux de la Belgique avec Ottawa sont réalisés à 90% dans la riche région néerlandophone. Malgré ces divisions belgo-belges, l'UE ne perd pas espoir de signer le CETA ce jeudi.
Lakshmi Lota du bureau de Bruxelles de Radio France. La météo demain, retour au calme sur le nord-ouest malgré un ciel nuageux. Partout ailleurs, un temps perturbé et souvent pluvieux, notamment sur les reliefs. Les températures maximales 12 à 16 degrés sur la moitié nord, 15 à 23 au sud. Il fera particulièrement doux sur les régions méditerranéennes. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Yacine Bouzard.